Le journal est présenté par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. La jeune égérie mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique, Greta Thunberg, doit tenir un discours à l'Assemblée nationale à midi aujourd'hui. Mais plusieurs parlementaires de droite et d'extrême droite boycotteront sa venue. Une icône qui divise, nous dira Véronique Rebérotte.
Alors que la ratification du CETA est votée aujourd'hui à l'Assemblée.
Oui, vote solennel sur le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Parmi les députés de la majorité, plusieurs comptent s'abstenir ou même voter contre. Nous ferons le tour de leurs arguments avec Rosalie Lafarge.
Au moins 50 personnes tuées dans des raids aériens hier en Syrie, sur le dernier bastion rebelle. Nous entendrons le témoignage d'habitants recueillis par notre correspondante à Beyrouth.
Et puis en France, 59 départements sont désormais en alerte orange à la canicule et 73 départements sont touchés par des restrictions d'eau dues à la sécheresse. De quoi attiser encore les tensions autour des ressources en France et en Europe, tiraillées entre enjeux écologiques et agricoles, nous dira Anne Lorchouin dans un instant. Greta Thunberg, l'adolescente suédoise de 16 ans, devenue une égérie mondiale de la lutte contre le changement climatique, est attendue aujourd'hui à midi à l'Assemblée nationale. Elle répond à l'invitation de 162 députés membres du collectif Transpartisan pour le climat Accélérons, un groupe amené par le député ex-marcheur Mathieu Orphelin. Greta Thunberg ne s'exprimera pas dans l'hémicycle, mais dans une salle du Palais Bourbon et assistera ensuite à la séance des questions au gouvernement depuis la tribune d'honneur. Le débat aura lieu avant. À ses côtés, la vice-présidente du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, et des Jeunes pour le climat également. Mais cette visite divise. La jeune militante ne fait pas l'unanimité. Elle est autant admirée que détestée, Véronique Rebérotte.
Il y a ceux qui admirent cette adolescente, capable de dire leurs quatre vérités aux puissants de ce monde, comme à Davos en janvier dernier, où Greta Thunberg avait prononcé devant un parterre de décideurs un « je veux que vous paniquiez » qui n'avait pas forcément mis son auditoire à l'aise. Les Jeunes pour le climat, dont certains seront à ses côtés aujourd'hui, la vénèrent pour sa capacité à redonner espoir et courage à une jeunesse qui ne peut pas compter sur les seniors pour résoudre la crise climatique. Greta Thunberg appuie là où ça fait mal, le fossé entre les discours et la réalité des actions réellement menées face à l'urgence climatique. La présence de la jeune militante dans l'hémicycle, le jour où la France doit ratifier le CETA, traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, pas vraiment climato-compatible, devrait en être une démonstration. Quelques élus ont soulevé l'incompréhension à voir des députés de la majorité vanter le courage de la jeune suédoise et voter pour le CETA. Greta Thunberg ne manquera pas de le leur rappeler. Mais certains ne l'entendront pas. Le républicain Julien Aubert, qui se moque de la venue d'une prophétesse en culotte courte. Nous n'avons pas besoin de gourous apocalyptiques, mais de progrès scientifique et de courage politique, a fait savoir le député LR Guillaume Larrivé. Tous deux ont annoncé vouloir boycotter l'intervention de Greta Thunberg.
Comment est-elle vue dans son pays, la Suède? Un article est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. Une visite qui survient donc le jour de l'ultime vote pour le CETA, dans une atmosphère qui s'annonce encore tendue cet après-midi à propos de cette ratification du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Un accord dont les défenseurs plaident l'importance et l'utilité, là où ses détracteurs s'inquiètent de risques sanitaires, agricoles et environnementaux. Les groupes d'opposition devraient largement voter contre, mais même au sein des députés de la majorité, le texte divise, Rosalie Lafarge.
La ratification va dans le bon sens, assure Emmanuel Macron, mais les députés de la majorité n'en sont pas tous convaincus.
Je réfléchis encore.
Frédéric Tufnel, député La République En Marche, se donne encore un peu de temps pour trancher.
C'est une décision qui est difficile parce que aujourd'hui les échanges commerciaux existent déjà avec le Canada et on aurait besoin quand même de les encadrer. Et je vois bien quand même les bienfaits du CETA pour les exportations françaises. Et puis de l'autre côté, la question de la filière bovine me préoccupe parce que j'aurais souhaité qu'elle soit même sortie de l'accord du CETA.
Des inquiétudes pour la filière bovine, pour ce qu'on va retrouver dans nos assiettes, pour la planète aussi.
Je ne voterai pas pour, mais je ne voterai pas contre non plus.
Le parlementaire du Modem, Bruno Millienne, a donc choisi l'abstention.
Ça a été un casse-tête pour moi, hein, parce que je suis obligé de reconnaître les avancées, et d'un autre côté, je ne suis pas satisfait à 100%. Pour la première fois depuis qu'il y a des accords de libre-échange, celui-là est un accord très protecteur et assez équilibré. Et moi, j'ai une ligne rouge qui concerne évidemment d'une part l'alimentation et d'autre part le climat. Et c'est pour ça que je m'abstiens.
Ayez le courage de dire non, a lancé hier par écrit Nicolas Hulot, mais certains au sein de la majorité n'ont pas attendu la tribune de l'ancien ministre de l'écologie pour prendre position.
Je voterai contre
le député LREM du Finistère, Erwan Balanan.
Pour moi, c'est un accord d'un autre temps. Il y a eu du travail de fait, mais ce n'est pas suffisant et cet accord doit être le dernier de ces accords de libre-échange et nous devons aller vers des accords durable et équitable.
Parmi les détracteurs du CETA, certains comptent sur la venue à l'Assemblée juste avant le vote de Greta Thunberg, égérie suédoise de la lutte contre le changement climatique, pour convaincre les indécis de la majorité, si ce n'est de voter contre, au moins de s'abstenir.
CETA, les députés savent-ils ce qu'ils vont voter? C'est le titre d'un article à retrouver sur franceculture.fr.
Nouvel épisode dans la saga du Brexit. Le Parti conservateur britannique doit annoncer à la mi-journée le nom du prochain Premier ministre.
Oui, les militants ont voté ces derniers jours pour désigner le remplaçant de Theresa May. Et sauf énorme surprise, c'est Boris Johnson, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien maire de Londres, qui va rentrer à Downing Street. Mais cette arrivée risque de coïncider avec un changement radical. Boris Johnson a fait campagne pour quitter l'Union européenne. Il affirme que le pays sortira le 31 octobre prochain, quoi qu'il arrive, même si aucun un accord n'a été trouvé avec Bruxelles. Une position qui a fait monter l'inquiétude, y compris au sein de la majorité, avec des démissions en cascade. Antoine Gignot, plusieurs ministres refusent de rester au gouvernement et essaient même de torpiller Boris Johnson avant même qu'il ne prenne ses fonctions.
Il y a les travaillistes qui menacent de lancer une motion de défiance. Il y a la nouvelle patronne des libéraux-démocrates qui explique à qui veut l'entendre que le Royaume-Uni mérite mieux que Boris Johnson. Mais les attaques les plus violentes viennent de son propre camp. Sir Alan Duncan, secrétaire d'État aux affaires étrangères, qui a longtemps travaillé avec lui, démissionne en signe de protestation et il complote pour barrer la route à son ex-patron. Il réclame un débat à la Chambre des communes pour demander aux députés s'ils sont prêts à assumer la direction radicale que risque de prendre le nouveau gouvernement. Il n'est d'ailleurs pas le seul à s'en aller. Le ministre de l'économie, Philippe Hammond, démissionne lui aussi. Départ également de David Gough à la justice, de Rory Stewart au développement international et sans doute plusieurs autres dans les heures qui viennent. À l'inverse, l'arrivée de Boris Johnson pourrait coïncider avec le retour de personnalités tranchées et europhobes comme David Davis, qui a été en 2016 le tout premier ministre du Brexit et qui prône une sortie totale de l'Union européenne.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture. Au moins 50 morts hier en Syrie, à Idlib, le dernier bastion rebelle situé au nord-ouest du pays, ciblé par des frappes aériennes attribuées à Moscou hier dans des bombardements contre un marché, des zones résidentielles. La Syrie, l'allié du régime qui depuis fin avril pilonne la zone, dément toute implication. Mais sur place, on maintient le contraire, notamment les ONG. Plus aucun journaliste occidental n'est présent dans cette dernière enclave contrôlée par l'insurrection anti-Bachar el-Assad. Trop dangereuse, mais notre correspondante à Beyrouth, Mélanie Wu, a pu contacter des habitants de la province d'Idlib par téléphone.
Il y a quelqu'un ? Abritez-vous, abritez-vous.
Farid a filmé toute la scène sur son portable. Le jeune journaliste activiste de 24 ans qui habite Maharat al-Nouman s'est rendu hier sur le marché de sa ville dès qu'il a entendu les bombardements. Contacté sur les réseaux sociaux, il raconte ce qu'il a vu.
Il y avait des corps partout qui gisaient dans les rues, des membres amputés, du sang par terre. C'était terrible. On assiste vraiment au génocide d'Idlib.
Après 3 mois de pilonnage par le régime et son allié russe, plus de 690 personnes auraient perdu la vie. Hier, Moscou a démenti toute implication dans les raids aériens. Mais sur place, on assure le contraire. Saad, 21 ans, est secouriste pour l'ONG Violette.
Des drones guidaient l'aviation russe dans le ciel. Les bombardiers russes sont partis de leur base de Khmeimin à Latakié. Puis ils ont repéré ici des regroupements de civils.
L'organisation de Saad soignerait chaque jour plus de 100 blessés. Elle appelle la communauté internationale à agir pour faire taire les violences et protéger les 3 millions de civils qui vivent dans la province d'Idlib.
Mélanie Wu à Beyrouth pour France Culture. L'armée sud-coréenne a effectué 2 tirs d'avertissement ce matin en direction d'un avion militaire russe qui a pénétré l'espace aérien de la Corée du Sud. C'est ce que vient d'annoncer à Séoul le ministère de la Défense, qui précise qu'il s'agit d'un événement sans précédent de la part d'un appareil russe. Cette intervention a eu lieu alors que 2 autres avions russes et 2 appareils militaires chinois sillonnaient également la zone, précise le communiqué du ministère. Un véhicule piégé a explosé hier à l'entrée de la base militaire française de Gao, dans le nord-est du Mali, faisant 3 blessés français et estoniens, selon une annonce du porte-parole de l'état-major français des armées. Cette base est partagée entre la force française anti-djihadiste Barkhane, la force de maintien de la paix des Nations Unies, MINUSMA, et les forces armées maliennes. Au Venezuela, les partisans de Juan Guaido, qui s'était autoproclamé président il y a 6 mois, jour pour jour, appellent à une nouvelle manifestation aujourd'hui. 6 mois après s'être déclaré président par intérim, son rival, le président Nicolas Maduro, qui l'accuse d'usurper le pouvoir, est toujours là, toujours aussi décidé à garder son poste. L'opposition a donc une nouvelle fois appelé à manifester aujourd'hui dans tout le pays, sauf que ces dernières semaines, les manifestations de l'opposition n'arrivent plus à mobiliser largement, en particulier les personnes qui vivent dans des quartiers populaires et peinent à survivre à cause de la crise économique. Notre correspondant Benjamin Delisle les a rencontrés à Petare, considéré comme le plus grand bidonville d'Amérique latine.
Il est bientôt midi et comme tous ses voisins, Alexander est venu profiter d'un repas gratuit offert par l'association Petare pour le Monde. Le quartier est perché sur une colline recouverte de maisons en parpaing. Ici, personne ne mange à sa faim.
On survit dans les poubelles. Ici, les gens mangent dans les poubelles. On a beaucoup de problèmes d'électricité, on n'a pas d'eau. On vit presque à l'état sauvage.
Tous ici croyaient que Juan Guaido allait changer le pays. Mais 6 mois plus tard, plus aucun ne sort manifester.
On croit toujours en notre président par intérim. Mais on se fatigue de ses promesses. Ça devient des mensonges. On ne veut plus prendre de risques. Donc beaucoup de gens ne sont plus motivés.
Didio Vergara fait partie du comité Aide et Liberté censé mobiliser les personnes des quartiers populaires. Même lui n'y croit plus vraiment.
On est tous très déçus. On est déçus parce qu'après les manifestations, il y a eu beaucoup de blessés. Mais il ne s'est rien passé. Là, il y a un dialogue, mais on doute que ça aboutisse. Donc on ne sort plus, surtout avec les coupures d'électricité ou d'eau qui nous fatiguent encore plus.
Autre raison invoquée par Joël, un quadragénaire, la répression très violente dans la zone.
Les forces policières appliquent un terrorisme d'État dans ces communautés. Nous sommes terrorisés parce qu'elles nous font vivre. C'est impossible de sortir parce qu'ils nous mettent un fusil sur la tempe, littéralement.
Même ceux qui rêvent de sortir exprimer leur colère sont donc condamnés à rester chez eux désespérés. Reste l'option de quitter le pays, mais même ça, ils disent ne pas en avoir les moyens.
Benjamin Delisle, alors qu'une nouvelle panne de courant est en cours au Venezuela. Depuis hier, la capitale Caracas et la moitié des régions du pays sont plongées dans le noir. Le gouvernement dénonce ce qu'il qualifie d'attaque électromagnétique, une panne qui affecte la distribution d'eau, les services de transport public et les liaisons téléphoniques. Le Portugal a demandé l'aide des bombardiers d'eau espagnols pour lutter contre les incendies de forêt qui ont repris dans la soirée, attisés par les vents dans une région du centre du pays, cette même région où le feu avait tué plus de 100 personnes il y a 2 ans. En France, 59 départements sont désormais en alerte orange à la canicule. 73 départements sont touchés par des restrictions d'eau dues à la sécheresse. Le secteur agricole, les producteurs de céréales comme les éleveurs souffrent de ces conditions. Des mesures ont été annoncées par le ministre de l'Agriculture et notamment le versement en avance de l'équivalent d'1 milliard d'euros d'aide de la PAC, la politique agricole commune, pour permettre aux éleveurs d'acheter du fourrage pour leurs animaux. Mais cette aide n'arrivera qu'en octobre. En attendant, les agriculteurs mettent en avant un problème qui réapparaît tous les ans en période de canicule, l'impossibilité selon eux de faire des réserves d'eau dédiées à l'agriculture à cause des oppositions écologistes. Les précisions sur cette guerre de l'eau avec Anne Lorchouin.
L'Espagne réussit à stocker 45% de l'eau qui s'écoule sur ses terres. Pourquoi la France ne pourrait-elle pas faire de même? C'est la question que pose à chaque canicule le syndicat agricole majoritaire FNSEA. Une partie des agriculteurs déplore en effet que chaque projet de retenue d'eau ou de barrage soit potentiellement source de conflit avec les associations de protection de l'environnement. On se souvient du traumatisme de Sivens et plus récemment du barrage du lac de Caussade dans le Lot-et-Garonne où les agriculteurs sont passés en force et ont construit leur barrage malgré l'avis de l'État. Des agriculteurs qui font valoir que ces retenues d'eau, de taille parfois modeste, permettent de stocker l'eau lorsque la ressource est abondante pour moins en prélever l'été. Pas si simple, selon Lorraine Levieuge, chargée de mission eau à l'association France Nature Environnement.
Le fait de stocker l'eau, ça crée une situation de sécheresse encore plus dramatique en aval, puisqu'on retient de l'eau qui ne pourra plus circuler. Plus on va faire des barrages, forcément, il va y avoir ce qu'on appelle un effet cumulé, et la sécheresse va être d'autant plus importante en aval de ces barrages.
À long terme, il serait plus logique et plus efficace d'adapter les pratiques agricoles à la ressource disponible en amorçant, toujours selon Lorraine Levieuge, la transition agroécologique.
c'est-à-dire mettre en place des prairies ou des éléments paysagers qui vont freiner le ruissellement de l'eau. Certains sols ont été tellement travaillés par des pratiques lourdes qui ont détruit la structure des sols et ils n'ont plus aujourd'hui ce pouvoir absorbant et d'infiltration de l'eau.
Les assises de l'eau, justement, ont eu lieu il y a quelques semaines. Elles ont souligné la nécessité de recréer des zones humides où l'eau puisse s'infiltrer, des zones supprimées par la bétonisation en milieu urbain ou l'agriculture intensive en milieu rural.
Anne-Laure Chouin, 59 départements du sud-ouest à l'Île-de-France jusqu'au centre-est sont placés en vigilance orange. Canicule aujourd'hui, soleil et chaleur partout, des températures comprises ce matin entre 22 et 29 degrés, avec cet après-midi le thermomètre qui devrait dépasser les 40 degrés sur plusieurs villes, notamment à Montauban, à Nantes, à Bourges, à Tours, à Clermont-Ferrand, Bordeaux et Toulouse. On atteindra environ 39 degrés à Rennes et 32 degrés à Paris. Demain encore, les températures devraient encore monter, Benoît Bouscarel.
Merci Sophie Delpont, c'était votre journal qu'on peut retrouver sur franceculture.fr.